Tu as un regard continuellement posé sur nous. Tu poses son regard sur... Comme ça que le livre de la sagesse a défini l'être humain par rapport à tous les autres, les êtres angéliques, les êtres inertes, les êtres de vie, les animaux, les oiseaux. La seule différence, c'est que pour l'être humain, dès qu'il le crée, Dieu regarde, pose son regard sur le cœur de l'homme. L'homme, Marie, Jésus, Joseph et nous, par rapport à tous les autres, ne ceci que Elohim, les trois, contemplent, se posent, se reposent sur notre cœur et regardent. Il regarde. Il voit que c'est... Il voit que tout cela est bon. Il voit que... Il reconnaît, il voit, il aime contempler Marie, il aime contempler Jésus. Il aime contempler le cœur de l'homme parce que c'est sa ressemblance, son miroir à l'état pur. Il aime poser son regard. Elohim, elle, ça veut dire Dieu contemple. Même il va donner un nom aux anges, et quand il donnera un nom aux anges, ils sont créés en fonction de son regard qu'il pose sur les hommes, sur le cœur de l'homme, sur le cœur de chacun. On est rentré là dans le mois de Saint-Joseph. C'est le troisième jour et demi maintenant. Et on va se retrouver comme ça pendant 30 jours avec Saint Joseph, avec ce regard de Dieu posé sur nous. Et Dieu a créé le monde, mais il se repose sur nous. Il se repose pas sur la lumière de gloire qui éclaire sans limite et sans fin l'embrasement séraphique de tous les anges bénis de Dieu. Non, il ne s'appuie pas sur eux. Il s'appuie sur ce contact permanent. Il s'appuie sur le Christ parce que le Christ, il n'y a aucune... d'espace, aucune distance entre le cœur de l'homme et le regard de Dieu dans le Christ. Les deux sont une seule existence. Et c'est à cause de ça d'ailleurs que la sagesse de créatrice de Dieu, s'il a voulu la création, c'est parce qu'il ne pouvait se reposer que sur l'être humain. Pas du tout que l'être humain soit fort, mais l'être humain est capable de se tourner vers Dieu et de le recevoir, de se laisser regarder et se tourner vers lui et se laisser prendre. De se laisser emporter quand même, de se laisser créer. C'est un être d'adoration. Et tant qu'il est vivant comme ça, tant qu'il est lui-même ce qu'il est, c'est-à-dire le miroir du regard de Dieu sur lui-même et ad extra, à l'extérieur de lui-même, tout en restant à l'intérieur de lui-même, quant à son accomplissement, l'être humain est pauvre. L'être humain n'est rien devant Dieu, il le voit et il en est heureux et il l'en remercie, quoi. Et il le loue. Et tant qu'on est dans cet état, eh ben on est à l'intérieur de Dieu, on est vivant à l'intérieur de Dieu, on ne voit que Dieu, La pureté n'existe pas. Le point d'orgueil, on a beau regarder de tous les côtés, il n'y est pas. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, on détourne immédiatement dans notre pauvreté notre regard. Il détourne ça, son regard de tout ce qui est malhonnête. Là, le juste est comme ça, Saint-Joseph est comme ça. Il détourne ses yeux de tout ce qui n'est pas. Là, tourner vers le face-à-face avec Dieu pour le remercier d'être pauvre, d'être rien. Il y a un temps d'être tout. Pour la gloire de Dieu. Il nous a créé à la louange de gloire, de sa grâce. Et même si on se retrouve dans l'abîme, du sordide, du péché, du scandale. On détourne nos yeux parce que nos yeux sont tournés à l'intérieur du regard de Dieu posé sur notre cœur et on est entièrement, continuellement tourné vers Dieu. Et on le remercie, et on le remercie, et on le loue. Et tant qu'on a cette vie-là, hein, cette vie divine, d'aller retourner notre regard vers lui, du regard de Dieu sur nous, les deux se mélangent pour faire la vie de la grâce, de la justification et de la sainteté, Jésus, Marie, Joseph. Et on nous cesse de rebondir dans la justice, la grâce, la sainteté. Toute justice, grâce et sainteté. Alors à ce moment-là, on est vivant. Mais on est vivant non seulement de la vie de la ressemblance, mais aussi de la vie divine elle-même. Tandis que si on est dans le péché mortel, si on est dans la mort, si on est dans la perdition, ben on ne peut pas louer et remercier Dieu. On n'est pas dans un état. Les morts ne louent pas Dieu. Même en enfer, les morts, les réprouvés, ne peuvent pas louer Dieu. Ils peuvent reconnaître sa grandeur, ils peuvent avoir une certaine gratitude, une certaine adoration, une certaine forme d'adoration et de crainte, de respect, mais ils ne louent pas. Tandis que si on est dans ce regard, ce va-et-vient du regard de Dieu vers nous et de notre regard vers lui pour que il y ait la vraie vie en nous, la vie, que l'image, la ressemblance se mue continuellement en source de vie divine, et bien à ce moment-là, oui, dans notre pauvreté, on ne peut que remercier parce que il n'y a rien de plus pauvre qu'un être humain. Et il n'y a rien de plus grand dans tout ce qui existe à l'intérieur de Dieu, du ciel et de la terre, que ce que Dieu donne à la pauvreté d'un être humain. Puisque des deux, il fait un seul être. C'est Jésus. Ah, donc Jésus, ben, il regarde ce... Quand ce jeune se précipite, court vers lui, tout content, et puis il se prosterne, et puis il l'arrête dans sa marche même. C'est extraordinaire, et puis il lui dit, mais ben, alors Jésus, ben, s'arrête, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il pose son regard sur lui une deuxième fois, et puis il l'écoute, et puis il le regarde, et puis... Quand il l'entend dire, mais tous les commandements, je les ai respectés depuis le début de ma jeunesse, alors. Il pose une troisième fois son regard sur lui et il se met à l'aimer. Il se met à aimer ce fils de l'homme, ce fils des hommes qui est là, mais qui n'a pas été jusqu'au fond de sa pauvreté, jusqu'au fond de sa capacité de louange, de gratitude. Il ne cherche qu'une seule chose, celui qui se croit un petit saint sur la terre, là. Il dit, comment je pourrais avoir... Il a déjà beaucoup de bien, il s'estime être beaucoup de choses, beaucoup mieux que les autres. Enfin, c'est pas qu'il se compare, non, mais... Mais il cherche en plus de ça l'héritage. Qui aura l'héritage? Comment est-ce que je pourrais avoir l'héritage de la vie éternelle? Il cherche à acquérir encore autre chose. Comme si la vie éternelle était une possession à avoir. Alors que c'est l'existence elle-même qui actue, qui est, trouve son acte dans l'acte pur du don de Dieu. C'est pas une possession. C'est un dépouillement. Et c'est sur ce dépouillement que Dieu pose son regard. Et là, il dit, mais voilà, on vient d'entendre cette bonne nouvelle qui est donnée à notre manque de pauvreté et d'humilité. Il dit, voilà, il te manque quand même quelque chose. Alors du coup, ce garçon disparaît. Il disparaît, Jésus se lève, ou il le relève, on ne sait pas trop, mais en tout cas, j'ai trouvé magnifique ça. Du coup, Jésus regarde partout, à droite, à gauche, tout autour de lui. Et ce garçon n'est plus là. Il est parti. Il regarde et il n'est plus là. Il regarde tout autour de lui et puis finalement, il voit ses disciples quand même. C'est ça, il lui reste l'église de la fin. Il lui reste l'église. Jésus regarde. Les disciples posent son regard sur l'humanité de la fin. L'humanité dans son fruit. Dans son fruit accompli, la pauvreté substantielle. Aucun honneur, aucune gloire, aucune œuvre, aucune décoration. Non, uniquement ce vol libre de celui qui est entièrement dépouillé et qui est tellement agile que Dieu l'attire et il s'envole. Un simple souffle très délicat de son esprit, et comme il n'a rien et qu'il n'est rien, il s'envole. L'humanité de la fin, c'est une humilité parfaite. La Jérusalem dernière, c'est une vie qui s'écoule merveilleusement dans l'attraction vers la fin, vers l'accomplissement des temps. C'est le seul moyen de répondre à la détresse du monde, à la mort instituée comme substance de toute chose dans l'univers. Et au pouvoir de la mort, scandaleusement et orgueilleusement établi. Heureusement, il y a Marie, il y a la Jérusalem dernière, il y a la fécondité de la pauvreté établie à l'intérieur, de la richesse sacrée de Dieu à l'état pur, les deux se mariant parfaitement pour engendrer en nous les jours de la pénitence. De la fin. Alors, et ça, c'est la troisième messe, la messe du soir. L'humanité arrive au soir de l'épuisement des instants, de l'histoire, le temps va s'ouvrir. L'évangélisation, à cause de la pauvreté, va faire ouvrir la signification du temps. La signification du temps, c'est-à-dire une lumière vivante, va palpiter le regard de Dieu sur nous, va être une nourriture. Dieu se nourrit de Jésus. Dieu se nourrit de son Fils. Le Père, l'Esprit Saint et le Verbe de Dieu se nourrissent de l'humilité et de la liquéfiante délicieuse, enivrante délice de la nourriture dont il se nourrit dans le Christ. Nous sommes des hosties vivantes, entièrement données, entièrement emportées. Et cette communion produit la Jérusalem dernière dans la fécondité de l'arche d'alliance, la mise en place du corps spirituel qui n'est pas du tout une possession, mais qu'une capacité multipliée par des myriades de fois d'être pauvre, c'est-à-dire d'être accueillant, d'être recevoir tout de Dieu. Non seulement en soi, mais aussi dans la matière, dans toutes les possibilités d'existence de tout ce qui existe en même temps. Alors ça, c'est la seule réponse. C'est la réponse de la prière du soir, de notre humanité. Elle n'est pas fascinée, hypnotisée par l'abîme du scandale. Elle détourne son regard de tout ce qui est impur, malhonnête, tout ce qui est mauvais, elle ne la regarde même pas. Puisqu'elle est entièrement sous le regard de Dieu. C'est vraiment une question de foi, hein? Mais une foi accomplie dans une espérance qui réalise une pauvreté substantielle, vraiment un dépouillement inconditionnel. Et ce dépouillement, c'est pas nous qui pouvons le réaliser. Jésus le dit, c'est totalement impossible pour l'homme, hein? Mais totalement. Totalement impossible pour l'homme. Mais pour Dieu, c'est possible parce que est ainsi posée la nécessité à la fin de notre louange, de notre élan, de notre foi en Dieu, la nécessité que ce soit Dieu qui fasse tout en nous, qui transforme tout. L'union transformante, c'est Dieu qui fait l'union transformante. Et ça, c'est possible pour Dieu. De recréer l'immaculée conception, la dormition, l'assomption, dans la responsabilité de l'un incréé en Jésus-Marie-Joseph. De l'établir, non seulement dans un regard, mais dans une incarnation. En tout ce qui se tourne vers Dieu et se laisse prendre par cette union transformante de là. Voilà, c'est la seule réponse. La seule absolution qui épuise tous les fonds, tous les abîmes de ténèbres. Et quand Satan, quand Lucifer et l'Antéchrist n'auront plus rien dans les mains, ben, ils ne pourront se raccrocher à aucune branche. Et donc, de même, s'effondreront dans l'abîme de l'Hadès, du feu, du Tartare. Nous n'appartenons pas à la nuit, à l'esprit de ce monde et aux ténèbres. Nous appartenons à la Jérusalem dernière. Et pour ça, il faut un miracle où Dieu intervient directement. C'est pour ça que c'est la messe qui se prolonge à l'intérieur des processions agréés de Dieu, qui va réaliser cela, et ça de plus en plus. Et ça sera notre monde intérieur, notre respiration normale. Ça l'est déjà. C'est le carême de Saint-Joseph. Il faut reconnaître que c'est extraordinaire. Cette dormition de Saint-Joseph, carême descendant de Saint-Joseph qui a été glorifié. On le voit dans les 14 derniers chapitres de l'Apocalypse, d'un carême descendant. C'est une dormition, c'est une tarte des morts, d'un mariage spirituel qui enfonce dans la tente de la communication de la lumière glorieuse en la croix glorieuse pour le déploiement de la pénétration à l'intérieur et à travers le nastal de la sponsalité agréée dans l'un agréé de Dieu. On va apprendre à faire ce carême avec lui, à sa manière, à lui. C'est une dormition. Une dormition de Saint-Joseph. Une croix glorieuse de Saint-Joseph, samedi saint de Saint-Joseph qui a duré plus que 35 heures, mais c'est un... Puis après, il y a eu une résurrection de Saint-Joseph avec la résurrection de Jésus. Et puis après, il y a eu une assomption de Saint-Joseph, encore 20 ans après, en même temps que l'assomption de Marie. Et il y a cette attente qui s'est faite jusqu'à aujourd'hui. Pour que cette assomption de Marie, Jésus, Joseph, à l'intérieur de la Jérusalem dernière, du cri de l'épouse et de l'Esprit Saint, puisse se réaliser et donner son fruit. On arrive là, dans cette génération du fruit, de cette quadruple dormition, d'ordema, dormition, assomption, et glorification, le couronnement. De Saint-Joseph dans l'Immaculée Conception, de l'Immaculée Conception dans Saint-Joseph, de la sainteté éternelle incarnée de Dieu, entièrement glorifiée dans le fond de l'unité des deux, et ce couronnement fait le royaume, cette vie-là à l'intérieur qui brûle, la vocation du dernier Israël de Dieu dans la Jérusalem dernière, il faut que ce soit notre nourriture, notre respiration, notre demeure. Il faut que ce soit notre vie, ça. Ce qui... Rien de tout cela ne doit nous être étranger. Voilà le carême qui se présente devant nous, 19e année. Du 3e millénaire, on est compte. C'est pas la force du poignet qu'on va l'acquérir comme on acquiert, j'allais dire, une récolte. C'est une pauvreté totale, aspirante, regardante. Et ce chemin de croix descendant de l'Apocalypse de Joseph vers nous. Ça va faire toute notre vocation, toute notre mission sur la terre. Dans le royaume joannique, de la disparition du mauvais de la terre, il faut que nous soyons trouvés fidèles à ça. Et on peut, on a le droit d'aspirer et de demander à Dieu de faire le miracle. Puisque ça nous est impossible s'il ne fait pas de miracle. Et on doit choisir l'impossibilité de nous et la possibilité, c'est-à-dire la mise en œuvre, la mise en mouvement du miracle, de tout ce qui est possible à Dieu, de toute puissance de l'amour de Dieu. est entièrement transformée. L'union transformante substantielle. C'est pas seulement une demande, c'est pas seulement une aspiration, c'est pas seulement un désir. C'est une puissance profonde qui est en nous et qui vient de la pauvreté, l'esprit de pauvreté.